enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Parce que l'été, c'est le moment où les fruits grandissent, où on commence à récolter, on commence à moissonner. Bien sûr, il y a des fruits qui sont précoces, d'autres qui sont plus tard, des légumes, tout cela pareil. Mais il y a quelque chose pour l'été. L'été est la bonne saison. La bonne saison pour récolter et pour rassembler de la nourriture. Et nous vivons actuellement, et vous vivez dans une période que vous savez, qu'on appelle une période de grâce. Nous sommes dans une période de grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et cette période nous permet de recevoir des choses de Dieu. Parce que tout ce que nous avons, nous considérons que c'est Dieu qui nous l'a donné. N'est-ce pas vrai? Tout ce que nous recevons, c'est de lui que ça vient. Et Dieu dit qu'en ce moment, eh bien, c'est une période qui est favorable pour vous. C'est une période où il a choisi de vous faire grâce et où vous pouvez recevoir de sa faveur. Vous avez la faveur auprès de Dieu. Bien sûr, il y a des promesses qui sont au futur, et on peut dire, bon, un jour Dieu fera ceci, un jour Dieu fera cela. Mais c'est pour ça que je vous parle de ce matin, pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant le temps de Dieu pour faire certaines choses, pour recevoir certaines choses. Et pour ça, eh bien, j'ai pris ce proverbe 6, où il est question de ce petit animal, la fourmi. Et la parole de Dieu nous dit au travers de ce verset qu'elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Jusque-là, vous direz, ce n'est pas une grande révélation, parce que même Jean de La Fontaine avait écrit à ce sujet, et il avait aussi découvert qu'il y avait entre la cigale et la fourmi, il y avait une différence. Oui, mais à l'origine, ce verset, eh bien, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et cela aura une grande importance pour nous. Puisque, juste au-dessus, je ne l'ai pas lu tout de suite, mais des fois la Bible nous secoue un petit peu. Elle dit « Va vers la fourmi paresseux ». Est-ce que vous aimez être traité de paresseux? Et moi je crois que la façon dont Dieu élève son enfant, ce n'est pas de leur frapper sur la tête, ce n'est pas de les traiter de tous les noms, mais il y a des moments où nous avons besoin aussi de nous secouer un petit peu. Alors, je ne sais pas si tout le monde est concerné, mais nous avons des moments où nous devons voir, tiens, là, je me suis relâché. Là, je me suis un peu laissé aller dans un domaine. Et il est dit, considère ses voies et deviens sage. Cet animal n'a pas une grande intelligence. Il agit simplement selon l'instinct que Dieu a mis en lui. Mais quand nous la voyons se comporter d'une certaine façon, eh bien, la Bible nous dit que nous pouvons en tirer de la sagesse. Il est dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça veut dire que ce que cet animal fait, elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il faut le faire. C'est en elle. Dans la fourmi, elle sent, il y a maintenant ce besoin de préparer ma nourriture. Elle ne réfléchit pas, elle ne fait pas un planning, elle ne fait pas un état des stocks en se disant j'aurai pas assez. Même si justement ce Jean de La Fontaine que j'ai cité lui fait parler les animaux, en réalité nous savons qu'il n'en est rien. Ils n'agissent pas de cette façon. Elle se dit pas, je vais mettre de la nourriture. Donc, elle le fait par instinct, mais il nous est dit, pour nous, c'est pas la même chose. Nous devons considérer ses voies et en trouver de la sagesse. Il est dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise tout le temps, eh bien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Cela vient naturellement. Et pour nous, la sagesse, ce serait de dire, ben, nous aussi, Dieu a déposé quelque chose en nous qui cette fois-ci n'est pas naturel, mais qui est quelque chose de spirituel, qui doit être une soif. Et comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître, il dit « Désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole ». Alors vous dites peut-être « Mais moi je suis plus un bébé maintenant, j'appartiens au Seigneur depuis 10, 15, 20 ans, et puis j'ai déjà grandi et je ne veux plus du lait ». Je ne dis pas ça pour que nous redevions au stade de l'enfant spirituel. Je dis ça pour souligner juste le mot « désirer ». Désirer. Un enfant, est-ce qu'il désire son biberon? Eh bien, des fois, il ne veut pas de la nourriture qu'on lui présente, mais il y a un besoin qui est là en lui. Son corps réclame de la nourriture et on lui donne et il y prend goût. et il se nourrit de cette façon. Et on sait que quand ce n'est pas le cas, eh bien, c'est qu'il y a un problème quand un enfant refuse de s'alimenter. Mais là, il nous est dit au verset 9, paresseux à nouveau. Il y a des endroits, des proverbes où je dis, on est vraiment secoué. À certains endroits, on traite l'interlocuteur de paresseux. À d'autres endroits, c'est insensé, c'est stupide. Mais c'est pas, et je crois que c'est important de dire ça, c'est pas juste pour nous frapper dessus et pour nous insulter. Il est dit pour nous sortir de cette condition. De dire, mais moi je veux pas être comme ça. Moi je ne veux rien avoir à faire avec ce genre de comportement. Et il nous est dit, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il nous est dit donc qu'il y a un temps favorable, un temps pour se nourrir, un temps pour se fortifier, un temps pour se préparer. Et si on néglige ce temps, il nous est dit « la pauvreté te surprendra ». Et ça nous parle de quelque chose qui vient soudainement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un temps où nous ne pouvons peut-être pas comprendre quel est le besoin pour le moment. Je me rappelle très bien d'un témoignage de parents qui vraiment s'étaient nourris des paroles de foi concernant la volonté de Dieu, de les avoir en bonne santé, de manifester sa miséricorde pour la guérison quand c'était nécessaire. Et ils lisaient tous ces passages de la Bible où il y a les miracles de Jésus, comment il était ému de compassion, comment il agissait envers tous ceux qui souffraient. Mais pourtant, tout allait bien dans leur maison. Jusqu'au moment où, soudainement, leur enfant, qui avait 7 ans à l'époque, a été vraiment foudroyé d'une maladie qui... Je ne sais plus de quel type c'était exactement, mais vous savez, il y a des choses qui vont très très vite. Il y a des choses comme par exemple une leucémie qu'on appelle foudroyante, et qui vient soudainement, et je crois que c'est cette pensée que je veux partager avec vous, qu'il y a des temps de préparation pour que quand la maladie veut venir soudainement, ou une autre épreuve quelle qu'elle soit, eh bien nous soyons sur nos gardes et capables de réagir. Et il nous est dit que, dans ce témoignage, que les parents qui ont donc laissé leur enfant à l'hôpital, ils ont dit à ce petit garçon de constamment dire ces mots que nous trouvons dans l'épître de Pierre, que par Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et c'est ce qu'il disait. Il disait tout le temps cela devant le Seigneur. Et vraiment d'une manière miraculeuse, en quelques heures, cet enfant est ressorti de l'hôpital. Alors moi je trouve ça c'est quelque chose de glorieux, on a même du mal un peu à croire dans le naturel, mais parce qu'il se passe des choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas. Job, quand il a été frappé de maladies et de toutes sortes d'épreuves, il n'avait aucune idée de ce qui se passe. Nous lisons maintenant le livre de Job et nous voyons l'histoire de la conversation entre Dieu et Satan, et nous voyons que Satan frappe Job et Dieu lui dit, eh bien... tu peux y aller, et toutes ces choses. Mais Job n'avait aucune idée de ce qui se passe. De la même façon, nous, des fois, nous manquons de discernement pour savoir les choses qui nous arrivent. Mais il y a des choses que Dieu nous montre ici, c'est que si tu prends soin, dans les moments favorables, de préparer de la nourriture pour être fort, pour être capable de réagir, eh bien, même quand l'ennemi veut te surprendre, eh bien, tu sauras comment lui répondre. Je le crois. Puisque cet avertissement n'est pas quelque chose de fatal en disant « Quoi que tu fasses, la pauvreté te surprendra, la disette tombera sur toi, toutes sortes de catastrophes. » Non, il ne dit pas ça. Il dit au contraire, « Reçois de la sagesse, du comportement de ce petit animal et tu verras ensuite que si ces choses veulent venir, eh bien, tu pourras y réagir. » Lisons ensemble tout le passage, je ne vais pas juste citer 1 Pierre 2, 24. Mais il y a beaucoup plus pour nous. 1 Pierre 2, à partir du verset 22, il parle de Jésus. Jésus qui a souffert pour nous. Il est dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voyez, souvent on cite juste 1 Pierre 2, 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, mais ça fait vraiment partie d'un tout. De plus en plus, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu dans son ensemble, parce qu'il y a là beaucoup plus. Il n'y a pas juste le fait de citer un morceau de verset pour recevoir une réponse. Il y a beaucoup plus. Il y a d'abord à considérer Jésus. Vous voyez que dès le verset 22, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on élève Jésus. On regarde à lui, regarde à ce qu'il a fait. C'est de là que la foi vient. Si je dois juste avoir la foi en lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, il nous faut bien comprendre qui est ce lui. Lui, c'est celui qu'il est décrit juste avant. Sans commettre de péché, tout ce qu'il a souffert, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et là, tout le monde est d'accord. Afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Et puis il dit, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste le pardon des péchés. C'est beaucoup plus. Le salut, c'est beaucoup plus. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc c'est aussi la bonne santé, la guérison. Mais c'est encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Car vous étiez comme des brebis errantes. Et maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Donc préparons de la nourriture cet été. Nous sommes en été maintenant. L'été, c'est aussi des périodes où des fois nous avons un petit peu plus de temps, il y a des vacances, et chacun doit savoir ce qu'il doit en faire, mais de préparer de la nourriture en été, tout ce que vous allez déposer en vous. Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt. Chacun d'entre vous, vous savez que si vous avez un compte en banque, mais que vous ne faites jamais de dépôt, vous ne pouvez pas y aller pour faire un retrait. Eh bien, la même chose, le Seigneur nous l'a dit aussi pour notre vie. Si vous ne déposez rien par l'Esprit en vous, eh bien, le jour où vous voulez faire, vous voulez puiser là-dedans, qu'est-ce que vous allez y puiser? Vous allez peut-être dire, mais il y a le Saint-Esprit. On peut donc puiser dans les ressources de l'Esprit, oui. Mais comment aurez-vous la foi pour puiser dans les ressources de Dieu si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, si vous n'êtes pas en communion avec lui au travers de sa parole et de toutes les choses qu'il veut vous communiquer? Vous savez que ce proverbe 6, il est repris encore une fois au proverbe 30. Au proverbe 30, il redit la même chose. Proverbe 30, verset 25, il nous dit « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » On peut se dire « nourrir », oui. D'accord, on veut bien se nourrir, on se nourrit dans le naturel, on comprend qu'il faut se nourrir dans le domaine spirituel aussi, mais se nourrir de quoi? Se nourrir de quoi? Il est dit, dans le proverbe, il y a aussi un proverbe à ce sujet, il est dit que celui qui a faim, il mange n'importe quoi. Quand on a vraiment faim, quand on est affamé, on est prêt à se jeter sur n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Regardez des périodes de famine ou de guerre quand il n'y avait rien. Les gens mangeaient des choses que nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Quand nous, on est dégoûté à l'idée de certaines choses, manger des rats ou d'autres choses comme ça. Bon, déjà, il y a des cultures où ça se fait sans problème. Mais il y a des endroits où on l'a fait dans la nécessité, dans la détresse. Et donc, quand on a vraiment faim, on est prêt à manger. Mais il nous est dit que celui qui est rassasié foule aux pieds même le miel. Quand on est dans un état de contentement, j'ai tout, ça va bien, on foule aux pieds même le miel. Même les bonnes choses de Dieu, pour nous, deviennent des choses où on n'y prend plus garde. Et quand on parle de saison, connaissez les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, on parle aussi des fois des saisons de la vie. Les saisons de la vie, et il nous est dit dans l'Ecclésiaste, il nous est dit de chercher l'Éternel pendant notre jeunesse. Parce que plus tard peuvent venir des jours où on dira « je n'y prends pas plaisir ». Disons, en ayant négligé une période de la vie qui peut être aujourd'hui, qui peut être maintenant, où Dieu s'approche, où il veut parler, où il veut vous communiquer des choses, en négligeant ça, il viendra une autre période où on va dire « oh, ça ne m'intéresse pas. Oh, je suis lassé de ça ». Vous savez, c'est Toutes ces choses sont dans la Bible et Dieu nous les communique pour nous aider, pour nous avertir, dire attention, parce qu'il connaît. Il connaît l'état de l'homme. Il sait quelles peuvent être nos réactions. Je vais vous lire Ecclésiaste 12, 3. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'était aussi la réaction dans l'Apocalypse. On y retourne assez souvent dans ses lettres aux églises, mais parce que je crois que c'est un moment où Dieu veut que nous mettions en ordre toutes ces choses. L'église de Laodicée, c'était celle où le Seigneur faisait ce reproche, verset 16, Apocalypse 3, 16. « Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche, je me suis enrichi. » Vous savez, c'était ce qui était arrivé aux Corinthiens. Il nous est dit pour les Corinthiens qu'ils étaient riches. Ils étaient riches en dons spirituels. Il y avait des paroles de connaissance. Il y avait des paroles de sagesse. Il y avait des prophéties. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et ils étaient riches d'une certaine façon spirituellement. Et cette façon de s'enrichir, et Paul a dû leur donner cet avertissement, il a dit la connaissance enfle. Ils avaient tous les dons de ce qui concerne la connaissance et la parole. Et dit, et cette façon d'être enrichi, eh bien, peut provoquer que la connaissance enfle. On a donc une tête enflée, on sait beaucoup de choses. Dès qu'il y a un passage biblique, on le connaît, on a déjà entendu ça. Mais il nous est dit, et l'amour édifie. Et l'amour, vous savez, c'est pas juste une espèce de sentiment vague. L'amour nous est décrit d'une façon très précise dans la parole de Dieu. Et dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc l'amour demande toujours une action. De la même façon que la foi, la vraie foi, foi en Dieu, n'est pas une foi morte. C'est pas juste je crois en Dieu, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Pour Dieu, ça n'existe pas ça. La foi qui ne met rien en pratique, c'est une foi qui est morte et qui ne produit rien. Mais la vraie foi, elle pousse aussi à l'action. Ainsi, quand nous avons cette parole qui nous dit que de la parole de Dieu vient la foi, c'est une parole de Dieu qui nous poussera à agir d'une certaine façon. Et donc, quand Dieu nous dit, c'est temps pour toi, c'est le moment pour toi de mettre un dépôt par le Saint-Esprit en toi, pour que tu puisses épuiser quand tu en auras besoin. Et pour ça, ne mange pas n'importe quoi, mais sois nourri de quoi? Il y a plusieurs choses dans la Bible, mais il y a un passage où Paul exhorte Timothée qui, on dit qu'il était jeune, je ne sais pas quel âge il avait quand l'épître a été écrit. Au début, il était jeune, mais après, il a grandi. Hein? Entre le moment où Paul l'a trouvé, où c'était un jeune homme, il a dit, celui-là, je vais l'emmener dans mon équipe, et le moment où il a écrit l'épître, ce n'était plus le jeune Timothée, parce que souvent, on entendait un peu les épîtres de Timothée, on imagine un peu le papa, Paul, et puis le petit jeune homme qui ne sait pas encore grand-chose, qui a besoin qu'on lui apprenne tout. Eh bien non, Timothée, à ce moment-là, était serviteur de Dieu et était dans le ministère et puis était dans cette équipe apostolique et dans 1 Timothée 4, Paul lui dit voilà les choses qu'il faut que tu fasses. Et il dit au verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc lui, il considère que les derniers temps, c'était il y a 2000 ans. Alors, je me demande dans quel temps nous vivons maintenant. Eh bien, il est dit, les derniers temps dans la Bible, la fin des temps, les temps de la fin, tout cela, en ce qui concerne le Seigneur, ça a commencé quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu, qu'il a dit tout est accompli, je dirais qu'il n'y avait maintenant commencé les temps de la fin. Avant, il y avait des temps de préparation. On était avant Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes après Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes de nouveau avant Jésus-Christ, dans le sens que nous attendons son retour, mais nous sommes après à l'horloge de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc nous sommes dans une période de l'histoire qui sont les derniers temps, et donc il lui donne une série d'exhortations, fais attention à ceci, cela, voilà des choses qui vont se produire, et il lui dit, au verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Bon ministre, ça veut dire tout simplement serviteur. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nous avons quelques problèmes des fois avec la bonne doctrine parce que nous avons vu tellement souvent utiliser le mot doctrine pour que simplement des avis, opinions, pensées des hommes soient imposées à d'autres sur le plan religieux que quand nous lisons doctrine, des fois nous disons non, on ne veut pas de ça. Mais ici, il ne nous est pas dit de la doctrine des hommes, il ne nous est pas dit d'une doctrine religieuse, il nous est dit de la bonne doctrine. Qu'est-ce qu'elle fait la bonne doctrine? Eh bien, elle vient de Jésus. C'est lui qui l'a apporté, cette doctrine. Il était docteur en Israël, qu'est-ce qu'il a apporté? Eh bien, on pourrait résumer par Jean 8, « Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Ça, c'est une bonne doctrine, mais c'est la doctrine du salut, qu'il y a une délivrance en Jésus. Et nourri des paroles de la foi. Nourri des paroles de la foi n'est pas possible une fois pour toutes. C'est pas possible une fois pour toutes. De la même façon que vous ne pouvez pas manger une fois pour toutes, mais nourri des paroles de la foi, ça veut, je le transpose sur le plan naturel, le tout, je dirais, la confiance que j'ai dans le naturel envers une personne a besoin d'être constamment nourrie. Je ne peux pas vous faire confiance et vous ne pouvez pas me faire confiance une fois pour toutes. Nous sommes comme ça, les humains, n'est-ce pas vrai? On fait confiance sur une base de quelque chose qui s'est produit entre nous. Par exemple, je vous fais une promesse, je vous promets que je vais vous faire quelque chose, donner quelque chose, et je le fais. Et je le fais. À ce moment-là, cette confiance, elle est là. Vous avez confiance parce que vous dites, il avait dit quelque chose et il l'a fait. Mais au bout d'un moment, cette confiance, elle ne peut pas reposer sur quelque chose d'ancien. Elle a besoin constamment de nouveau de témoignages actuels, nouveaux, de la façon dont nous nous parlons, nous nous comportons, des choses que nous faisons. Et je crois pour Dieu qui connaît notre nature humaine, eh bien, il fait la même chose. Il ne nous a pas promis une fois. Bien sûr, on pourrait dire, dis une seule parole et ça suffit. Jésus dirait, c'est une grande foi. Mais il a dit qu'une seule fois à une personne. Et la plupart des autres, eh bien, vous, si vous êtes comme moi, nous avons souvent besoin des encouragements de Dieu. Qui nous disent encore, et redis-nous les promesses, et relisez les promesses. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a promis? On aimerait bien des fois se dire, bon, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un point, c'est terminé, j'y reviens plus. Et ça serait formidable, mais la réalité, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, parce que quand Jésus l'a dit, c'est le cas. Mais la réalité pour nous, c'est que souvent nous ne le vivons pas de cette façon. Nous l'avons entendu, à un moment, cette parole est devenue vivante, et puis au bout d'un moment, ça s'estompe un petit peu, ça diminue, ça faiblit, et on a besoin de nouveau de la réentendre, peut-être celle-là, ou peut-être une autre qui sera presque pareille. Une autre où le Seigneur dira, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et nous reprenons confiance. Et puis, nous sommes dans les circonstances de la vie et nous avons de nouveau l'impression, mais Dieu est loin, mais je me sens seul et toutes ces choses. Et alors, nous retournons à une promesse de Dieu. Mais vous savez, c'est une chose d'entendre une promesse de Dieu que je peux vous dire maintenant et une autre vers laquelle j'aimerais vous conduire maintenant. C'est quand vous avez fait un bon dépôt en vous, quand vous vous sentez seul, triste, abandonné, devant une situation impossible, eh bien à ce moment-là, vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur que je peux puiser. Et vous pouvez alors vous rafraîchir, vous renouveler dans les paroles de Dieu. Les paroles, je dis bien les paroles, pas juste la parole en général, mais les paroles qu'il vous a adressées. Je vous encourage vivement à aussi noter des choses. Prenez un petit carnet ou un cahier et notez-vous les choses que Dieu vous dit, les choses que la Bible est devenue vivante. Mettez des petites annotations. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour votre Bible, mais vous pouvez même faire des petites annotations en marge des pages. Le psalmiste, j'aime ce verset du psaume 4, verset 5, il dit « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » La couche, c'est le moment où on se repose dans le naturel. Mais c'est le moment aussi où, eh bien, normalement, on n'est pas occupé à 36 choses. C'est vrai qu'on peut des fois être assiégé par des inquiétudes et des soucis, et on ne dort pas et on rumine encore et encore. Mais ici, il parle d'un exercice spirituel qui dit « parlez en vos cœurs ». Donc c'est un moment de prière. Il dit « et puis taisez-vous ». Puis taisez-vous dans le sens que « et maintenant, la réponse veut venir ». La réponse de Dieu, la réponse de votre besoin. J'ai entendu une prophétie qui a été donnée une fois à un homme de Dieu. On lui a dit, tout ce dont tu as besoin est en toi. Je crois que beaucoup de choses ont été déposées en nous et que nous pouvons les chercher. Nous pouvons apprendre à y puiser. Mais il y a un temps favorable maintenant pour déposer. Saisissez l'occasion. Prenez cette occasion maintenant, aujourd'hui et cet été. Prenez l'occasion de vous remplir plus que jamais. Pensez à l'éponge. Une éponge, vous la mettez dans l'eau et elle se gonfle, elle se charge de tout ce qu'il y a autour. Et alors, cette éponge, elle est remplie et quand la pression vient, qui peut être comme une épreuve dans la vie, et de cette éponge va sortir ce qui était en elle. Et de la même façon, ça peut être une des illustrations que Dieu nous donne pour votre préparation, pour la façon d'être prêt à affronter les situations de la vie. Vous avez des moments où vous trempez dans la parole de Dieu, vous laissez remplir, remplir, remplir. Et quand les moments d'épreuve arrivent, eh bien ce qui était dedans est capable de sortir et ça apporte la réponse qu'il vous faut. Parce que vous savez que chaque situation de la vie a une réponse dans ce que Dieu nous a donné. Il y a une solution. Il n'y a aucune situation, même si nous ne sommes pas capables de l'imaginer, il n'y a aucune situation où Dieu soit pris de court. Où il dit, ça je ne l'avais pas prévu. Ça je n'ai pas de solution pour ça. Ou ça c'est quelque chose qui dépasse mes capacités. On est d'accord avec ça? Eh bien donc, tout est dedans. Tout est dedans à nous de nous remplir, remplir, remplir. Comme je disais, c'est un exercice spirituel, c'est pas un exercice intellectuel. Notre tête participe. Quand je lis ma Bible, mon cerveau et le fait que j'ai été à l'école, que j'ai appris à lire, ça m'aide. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de recevoir les choses dans notre esprit. Dans notre esprit. Dieu veut nous sanctifier, nous mettre à part pour lui dans le temps que nous vivons, tout entier, esprit, âme et corps. Donnons la priorité à l'esprit. Donnons la priorité à l'esprit dans notre vie. L'âme est importante, notre corps, on s'en occupe, c'est vrai, il y a des grands besoins, mais faisons les choses dans l'ordre. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Il recherche d'abord un culte en esprit. Après, toutes les autres parties de notre être seront engagées aussi. On va vivre des choses au niveau de l'âme. Notre volonté va y participer, nos émotions, nos sentiments. Tout va y participer. Notre corps va exprimer la louange vers Dieu. Lever les mains ou bouger devant l'Éternel. Mais donnons cette priorité. Dit d'abord, je vais rencontrer Dieu en esprit. En esprit, parce que c'est là qu'il veut se révéler. Hein? Rappelez-vous, il est esprit. Il veut se révéler là. Et je dirais, pour vous encourager, que Dieu est proche. Il y a aussi, comme j'ai dit, il y a une période dans le peuple d'Israël, on parlait souvent de ces périodes où Dieu visitait son peuple. Hein? Il était en visite. C'est intéressant de voir cette notion en visite. Si vous êtes en visite chez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le reste de l'année, vous n'habitez pas chez lui. Vous êtes là juste de passage. Et ça veut dire qu'il y a un temps où vous venez et il y aura aussi un temps où vous repartez. Et nous voyons que souvent, il veut simplement visiter son peuple, mais il veut faire une demeure permanente. Nous avons entendu déjà ça. Mais tant que dans notre façon de voir Dieu, nous le voyons loin, nous le voyons venir de temps en temps puis repartir, nous aurons du mal à développer cette façon d'un Dieu qui est proche de nous. Alors j'aimerais partir de quelques points de l'Ancien Testament pour vous montrer que nous avons toutes les raisons de nous réjouir de ce que Dieu veut vivre avec son peuple maintenant. Dans Deutéronome 4, Israël réalisait quelque chose. Deutéronome 4, verset 7. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Eh bien, ils ont réalisé que le monde entier adoraient des faux dieux et des idoles. Et que eux, ils avaient un Dieu qui était différent de tous les autres. Le prophète Élie, il se moquait des faux prophètes. Il disait, mais il y a Baal, il ne répond pas. Alors criez plus fort. Il disait, peut-être il est en voyage, peut-être il est endormi. Criez plus fort. Parce qu'ils savaient que eux, ils connaissaient l'Éternel. Deutéronome 4 nous dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Toutes les fois. Vous rendez compte que c'est merveilleux? Ils avaient réalisé, Moïse leur dit ça, et leur dit, vous avez cette capacité d'invoquer Dieu, c'est-à-dire de l'appeler, et chaque fois, il est dit, toutes les fois que vous l'invoquez, il est proche de vous. Il est proche de vous. C'est-à-dire, il répond. Salomon avait poussé sa foi très loin. Il avait dit, concernant le temple, même si ton peuple un jour s'est détourné, même s'ils ont été dispersés à l'extrémité de la terre, mais s'ils se tournent vers ce lieu, et s'ils t'invoquent en ce lieu, en se tournant vers le temple, réponds-leur. Réponds-leur. Vous voyez, il y a des choses, des gens dans le passé, ils ont été audacieux, ils ont osé lancer quelque chose devant Dieu en disant, Seigneur, fais ça. Et chaque fois quand Dieu voit ça, il ne s'offusque pas, il ne s'irrite pas, mais il est, vous savez quoi, honoré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je puisse faire ça? Quelqu'un qui croit que j'ai la capacité, même du bout du monde, quand quelqu'un est dispersé, de le ramener vers ce lieu, de le secourir, de le délivrer, quel que soit l'endroit où il est. Eh bien, ça, cette chose a déjà été semée dans le peuple d'Israël à l'époque. C'est une préparation. Une préparation, il nous est dit, l'ombre des choses à venir. Quelle est la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Je sais qu'il y a dans le Nouveau Testament aussi des exhortations à s'approcher de l'Éternel, parce que nous en ressentons, je dis bien le mot ressentir, nous en ressentons le besoin. Mais la promesse de Dieu, c'est que Dieu est proche de nous. Il est proche de nous, ici il est dit, toutes les fois que nous l'invoquons. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu dis, il y a des moments favorables. Il y a des moments favorables pour chercher l'Éternel. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, vraiment, ceux qui ont fait cette analyse superficielle de la Bible en disant, vous savez, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Dieu de la colère, après est venu le Dieu de l'amour, ils n'ont pas dû souvent parcourir ces passages où il y a cette révélation de Dieu, un Dieu qui a pitié de lui et il ne se lasse pas de pardonner. L'autre jour, on avait regardé un film avec mon épouse et il y avait une discussion au sujet de quelqu'un qui s'était suicidé. Et il y avait là une religieuse qui disait, il y a bien un péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est celui-là. Parce que prendre sa vie, c'est finalement renoncer ou renier la miséricorde de Dieu. Et de ce à quoi la personne qui lui parlait répondit, que, eh bien, si Dieu est tellement miséricordieux, il peut aller même au-delà. J'ai trouvé que le message qui était passé au travers de cet échange était remarquable. Et c'était rien d'autre que l'inspiration de l'Évangile, notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a un péché impardonnable, mais il n'y a pas des iniquités qui sont impardonnables. Nous le savons, il est clairement identifié. Le seul péché que Dieu ne peut vraiment pas pardonner, c'est quand on dit « je refuse Jésus, je renonce au salut en Jésus, je refuse que Jésus soit le sauveur du monde ». Alors Dieu n'en a pas un deuxième pour lui. Il n'a pas un sauveur de remplacement. Il n'en a prévu qu'un seul. Il a donné Jésus. Comprenez? Donc, si quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui? Parle en termes de salut. Il ne dit pas que Dieu n'agit pas. Il répond, il agit, il attire à lui. Mais il y aura un moment où il faudra que chacun prenne une position, dire, qu'est-ce que je vais faire de Jésus-Christ? Et pour une partie du peuple d'Israël, pas beaucoup, mais une partie, eh bien, qui n'ont pas reçu Jésus comme le Messie, il nous est dit qu'ils le verront un jour. Ils le verront et le reconnaîtront. et ils rentreront par là dans le plan de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a souvent pensé que, à la suite d'une déclaration comme celle-là, bon, ben, la chose était claire. Dieu a une façon de voir les choses et de penser, et nous une autre, et entre les deux, il n'y a rien de commun. Mais ça, c'était simplement un constat. Ce n'était pas une promesse à ce moment-là. Il n'y a pas de promesse dans ce verset. Il y a juste un constat que nous avons besoin de voir que les pensées de Dieu sont infiniment au-delà. Et puis il explique, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Je vais donner une explication différente ce matin de ce passage, différente que celui que des fois on utilise dans l'intercession. On dit que Dieu donne une parole, cette parole, nous la prions et la proclamons, elle retourne à Dieu et produit un effet. Cette interprétation est juste et c'est bon et il faut l'utiliser. Mais il y a ici encore autre chose. Il y a le fait qu'il y a un Dieu au ciel qui a des pensées et qui a des voies et qui a des projets. Et il y a nous qui sommes ici-bas, je le schématise maintenant, nous qui sommes ici-bas et on a nos propres pensées et nos voies. Alors que fait le Seigneur? Eh bien, il dit, de la même façon que je fais tomber la pluie et la neige, eh bien, de la même façon, je donne une semence au semeur. J'ai le privilège d'être ce matin le semeur de Dieu pour vous. Et la semence qu'il m'a donnée, c'est les paroles que je vous dis. Et du pain à celui qui mange, eh bien, cette parole est aussi une nourriture pour celui qui peut la supporter. Alors, il y a différentes nourritures, comme je l'ai dit. Il y a le lait, il y a la nourriture solide. Et ces paroles et cette nourriture, eh bien, voilà ce qu'elle fait. Elle sort de la bouche de Dieu et elle ne retourne pas à lui sans effet. Elle va produire maintenant quelque chose dans nos vies, dans votre vie ce matin. Elle va exécuter la volonté de Dieu. Elle va produire quelque chose en vous. Par exemple, elle va produire le désir, c'est ce que je souhaite, le désir pour vous de vous nourrir cet été comme vous ne l'avez jamais fait. De recevoir de la nourriture de Dieu. De vous laisser remplir et de faire des réserves et d'être prêt. D'être prêt et d'avoir en vous, être nourri des paroles de foi. Les paroles de foi, donc, les paroles de foi ne sont pas n'importe quelle parole de Dieu, mais c'est des paroles précises, inspirées, des paroles réma, des promesses où vous dites, bon, Dieu l'a dit à Abraham, mais ce matin, c'est comme s'il me le dit à moi-même. Ou Dieu l'a dit à Timothée, mais ce matin, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça que Dieu veut pour moi. Et il dit, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. N'est-ce pas ce que nous voulons? Chaque fois que nous sommes ensemble, vous voulez sortir avec tristesse et vous voulez être conduit par je ne sais quoi, eh bien, conduit en paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est ce que nous voulons. Et nous voulons sortir avec joie, de dire, eh bien, nous avons expérimenté un moment où nous sommes sentis proches de Dieu. Je dis bien sentis, parce que comme vous le savez, les promesses de Dieu sont là, il est toujours proche de nous. Et des fois, on ne le sent pas. Et nous avons besoin aussi de le sentir. Notre âme en a besoin. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. N'est-ce pas aussi ce que nous attendons? Que ce que nous vivons à l'intérieur commence à avoir de l'effet sur l'extérieur. Que même qu'une personne tremble, je dirais c'est déjà glorieux, ça veut dire une personne réagit au toucher du Saint-Esprit. Mais quand les murs tremblent, c'est encore une autre question. D'accord? Et c'est ce que nous souhaitons. Qu'une personne dise « J'ai Jésus dans mon cœur », c'est bien. Mais que tout le monde dise « Qu'est-ce qu'il a pour rayonner comme ça ?» C'est mieux. C'est mieux. Mais ça commence par l'intérieur vers l'extérieur. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Peut-être vous ne voulez pas être un monument, parce que vous pensez au monument que les hommes dressent, une espèce de colonne de pierre ou quelque chose. On voit, c'est froid, c'est dur, c'est rigide, ça ne bouge pas. Mais ici, il nous a dit un monument perpétuel, impérissable, qui est pour l'Éternel une gloire. Un monument, vous voyez, qui n'est pas comme une épine. Pas comme une épine, mais comme un cyprès. Et pas comme une ronce, mais comme le myrte. Or, le myrte, eh bien, c'est un, ça donne un parfum. J'aurais dû étudier un petit peu plus la botanique biblique. J'aurais pu aller plus loin. En tout cas, je sais que dans la Bible, on utilise le parfum de la myrte. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous pouvons repartir encouragés, fortifiés de cet endroit, sortir avec joie, nous laisser conduire en paix. Acte 17 nous promet Dieu, qu'est-ce qu'il ne fait ? Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui le maître du temps. Et il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Ce mot tâtonnant est pénible. Vous trouvez pas ? Des fois c'est pénible, parce que tâtonner, on imagine, on est dans une pièce sombre, on n'y voit pas, et on se cogne partout. Ça fait mal, on tâtonne. Et de la même façon, chercher Dieu en tâtonnant est pour l'homme quelque chose de pénible. Mais Dieu l'a voulu comme ça pour une raison bien précise. Il n'a pas voulu apparaître d'un coup. Me voici, c'est Dieu, tout le monde se met à genoux, se prosterne et m'adore. Il aurait pu le faire. Mais il aurait désiré bien davantage que des gens, bien on leur dise, vous savez, il y a un Dieu. Il y a le Dieu vivant. C'est le seul qu'il y a eu. Et il vous aime. Il aimerait que vous approchiez de lui. Mais ce qu'il va faire, il ne va pas apparaître d'un seul coup pour s'imposer à vous. Il va voir, est-ce que vous désirez aussi ? Et même quand vous vous cognez dans le noir, en tâtonnant, en cherchant Dieu, est-ce que vous allez dire, oh non, ça fait trop mal, je retourne où j'étais ? Mais vous allez continuer. Vous allez continuer parce que vous savez qu'il y a quelque chose à trouver. Oui ? Et Dieu se révèle. Il ne veut pas rester caché. Mais il reste juste assez caché pour que nous montrions bien qu'on veut le trouver. Et il nous est dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout en lui. Le mouvement, l'être, être quelqu'un, pouvoir être soi-même. Pas un numéro, pas un inconnu. Nous sommes quelqu'un. Certains le disent d'une certaine façon, nous sommes quelqu'un. Proclamation d'orgueil, non. Nous sommes quelqu'un dans le sens que nous avons le droit d'exister. Nous sommes une réalité, nous sommes une personne. Nous sommes une personne que Dieu connaît. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes aimés de Dieu, connus de lui, et nous allons régner avec lui pour l'éternité. Donc aujourd'hui c'est le temps favorable. Le temps favorable de dire, Seigneur, je veux me donner du temps, je veux me laisser remplir de toi, je veux prendre du temps pour être nourri de toi. Et il saura quelle est la nourriture convenable. Un petit conseil pour votre lecture biblique, des fois, ne vous arrêtez pas à essayer absolument de comprendre un passage de l'Écriture. Peut-être ce n'est pas pour vous maintenant. Donc, on le met quelque part au fond de soi, on dit, Seigneur, quand j'en aurai besoin, je te fais confiance pour que tu me le révèles. Mais des fois, en voulant trop analyser et comprendre, on veut forcer le sens de quelque chose. Il sait de quoi nous avons besoin. La vie sur terre est tellement courte. Comparez la durée de votre vie à l'éternité. Même si vous dites c'est comme ça, c'est encore moins que ça. Quand on pense un instant à l'éternité, notre vie n'est rien du tout. Vous êtes d'accord ? C'est rien du tout. Même si quelqu'un a vécu 100 ans, qu'est-ce que 100 ans en rapport avec l'éternité ? C'est rien du tout. Tout petit. Infini, c'est l'infiniment petit. L'infiniment petit est difficile à imaginer pour nous. Nous pouvons voir des petites choses, mais au bout d'un moment, on ne discerne plus rien. Alors on prend un microscope et on dit, ah, mais il y avait plein de choses que je ne voyais pas jusqu'à présent. Mais même le plus grand microscope, au bout d'un moment, eh bien, on ne voit plus. C'est plus possible pour l'homme. Eh bien, il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, et Notre vie, elle est comme ça. C'est un tout petit rien en comparaison de l'infini. Les gens dans la Bible ont essayé de le traduire d'une certaine façon. Alors, ils ont trouvé des analogies dans le naturel qui valent ce qu'elles valent. Jacques a dit, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur. » Ça vous fait plaisir, ça ? Qu'on vous dise, « Voilà ta vie, voilà ce qu'elle vaut, vous êtes une vapeur. » Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Les hommes voudraient justement avoir des monuments. Des monuments à leur gloire. Alors ils ont fait des pyramides. Ils ont fait, même Absalom, le fils de David, il nous a dit à un moment, il avait construit le monument d'Absalom pour qu'on se rappelle de lui. Et d'autres hommes encore ont fait ça pour qu'on se rappelle d'eux. Eh bien, ici, Jacques nous dit, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur. Et Pierre dit aussi quelque chose à ce sujet, et dit au verset 24, vous savez ce que vous êtes encore ? Toute chair est comme l'herbe, vous êtes comme une herbe. Et il dit, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Vous avez des jolies fleurs dans votre jardin, ça dure quelques jours, et après tout est desséché et il n'y a plus rien. Ça c'est considéré d'un point de vue naturel. Mais vous savez, ce petit grain de poussière que nous sommes, eh bien Dieu le connaît, il l'aime, il en a pris soin, au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux dans le ciel, son fils Jésus, pour que nous puissions être ses enfants d'adoption, ses enfants accueillis dans sa famille. Eh bien, c'est pour cela que nous voulons le remercier et nous voulons vivre ces passages de l'Écriture qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Nous répondons à son amour. Il a donné toute sa vie. » Alors nous pouvons aussi lui donner toute notre vie. Il a donné son temps, on peut dire, parce que la vie c'est le temps que nous vivons. Eh bien, nous aussi pouvons lui donner du temps. J'ai dit l'autre jour à quelques personnes, j'ai dit, il y a tellement de choses qui nous sont proposées maintenant. J'ai dit, nous ne vivons plus à l'heure du Moyen-Âge, où on avançait à la vitesse des chars à bœufs. Nous, pour nous, tout est instantané, rapide. On a parlé encore avec les enfants. Il y a une bande dessinée où il parlait des communications. Alors il disait, quand une lettre partait d'un bout du continent jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autre, alors ça pouvait durer des semaines et des mois. J'ai dit, maintenant je peux envoyer par mon courrier électronique un document en une fraction de seconde, c'est à l'autre bout de la terre. Et donc le temps dans lequel nous vivons est un temps où tout va vite, tout est... Nous sommes constamment sous pression. Alors, il nous est dit dans la Bible, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobre. Sobre, ça veut dire que je vis à l'inverse des excès. Je ne fais pas 36 choses, mais j'essaie de faire bien certaines choses que Dieu va me montrer. Je sais que je ne peux pas faire tout, alors j'essaie de voir qu'est-ce que je peux réaliser. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de moi? Qu'est-ce qu'il peut faire de ma vie? Même si... ça ressemble à une vapeur ou à une herbe, eh bien cette vie, elle est importante pour lui, parce qu'il veut agir au travers de nous. La parole, il nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, demandons-lui, lui qui est éternel, hors du temps, lui n'est jamais pressé, n'est jamais sous pression par le temps, il sait toujours agir. Demandons-lui de nous aider à gérer notre temps. Si vous êtes comme moi, vous avez fait des plannings, des projets, des programmes. Vous avez pris des résolutions de temps en temps. Je vais faire plutôt ceci, plutôt cela. Et on se rend compte que tous ces efforts, souvent, ont commencé dans la chair et finissent dans la chair. Il n'y a qu'une seule façon que nous pouvons y arriver. Il nous a dit « marcher selon l'esprit ». Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Ça veut dire, Seigneur, je veux être ouvrier avec toi. Je veux te demander de m'aider à gérer mon temps, de faire ce qui est utile. Utile ne veut pas dire un sens strict, seulement service, service, service. Dieu connaît aussi nos besoins. Vous savez que nous avons des besoins légitimes de vouloir avoir des temps où nous pouvons nous relaxer, nous détendre, ou nous faire du bien, nous amuser. Toutes ces choses sont importantes. Parce que si on ne voit que service, alors nous tombons de nouveau dans une mentalité d'esclave. Il nous a dit, avant, nous étions esclaves du péché. Et Paul dit, après vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais il précise, il dit, ce n'est pas vraiment la pensée de Dieu pour vous d'être esclaves de la justice, mais je vous dis ça parce, à cause de votre compréhension qui est un petit peu limitée. Je dis ça simplement en utilisant un langage un peu impropre. Et nous comprenons qu'un esclave est obligé de faire, n'a pas le choix, doit faire quelque chose. Mais un serviteur peut servir volontairement son maître. Dans la Bible, il nous est dit que quand un esclave d'Israël était relâché au bout de quelques années, il pouvait volontairement choisir de rester au service de son maître. Et je crois que c'est dans ce sens que nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc on choisit volontairement. Et ensuite, il y a l'étape suivante. Eh bien, Jésus dit, maintenant je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et de ami, il va encore plus loin et dit, dis à mes frères. Et ainsi, il y a une progression constante. Et nous sommes maintenant co-héritiers de Christ. Levons-nous pour prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce qui est semé, une bonne semence, semence incorruptible, qui va produire du fruit, qui va aider plusieurs d'entre nous à encore plus te glorifier dans notre vie, être un monument pour la gloire de Dieu, répandre le bon parfum de Christ autour de nous. Merci Seigneur parce que nous allons marcher selon l'Esprit. Nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, mais nous allons apprendre à nous laisser diriger, être conduits. Nous refusons toute pression, nous refusons tout ce qui veut nous assujettir, qui veut nous obliger de nouveau à rentrer dans des œuvres mortes. Mais nous voulons au contraire, eh bien, répondre à ton attente. Ton attente, c'est que nous puissions ensemble œuvrer dans ce monde pour le temps qui nous est donné. Et pour ça, nous voulons te consacrer tout à nouveau notre vie, notre temps, et nous voulons te consacrer aussi cette période d'été et de vacances. Nous voulons demander que ce soit des vacances sanctifiées, des vacances où nous puissions être renouvelés, rafraîchis, remplis de toi, et vraiment nous réjouir sous ton regard. Merci pour la parole qui ne retourne pas sans effet. Tu vas veiller maintenant sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Nous allons nous remplir plus que jamais. Renouveler notre intelligence, recevoir tes pensées, recevoir tes plans, recevoir tes directions, voir quelles sont tes voies. Merci car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que nous pouvons saisir cette occasion. Hier est passé, demain ne nous appartient pas. Comme nous l'avons lu ensemble, nous ne savons pas ce que sera demain. Mais aujourd'hui, c'est le jour que tu nous as donné. Merci, tu es présent. Tu es le Dieu du présent. Et nous travaillons avec toi, selon ta parole. Puisque nous travaillons avec Dieu, il nous a dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il n'est pas dit, ce jour viendra plus tard. Il est dit, voici maintenant. C'est le jour favorable. C'est le jour favorable où Dieu attend ton cri, attend ta prière, attend que tu lui parles, attend que tu lui donnes tout ce que tu voulais garder pour toi, pour qu'il puisse te donner encore plus et te combler. Amen.